Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Nous allons garder la page, s'il vous plaît, mais nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et une troisième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est ce qu'on va vivre ce matin. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vous et moi, nous avons besoin d'une parole de Dieu. Vous êtes d'accord? On a besoin d'une parole de Dieu. On est venu pour célébrer Dieu, on est venu pour l'adorer, on est venu pour l'exalter, on est venu pour la communion fraternelle, on est venu pour prendre le pain et le vin, on est venu pour tous ces aspects, bien. Mais au-delà de toutes ces faveurs, nous avons besoin d'une parole de Dieu. Tous, c'est vrai ou c'est pas vrai? Tous nous avons besoin d'une parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important d'être sérieux. D'être sérieux avec Dieu. Imaginez, je pensais ce matin en préparant ce culte, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère et on l'a amenée au pied de Jésus dans un seul but, que cette femme soit lapidée. Cette femme, elle s'est trouvée dans la présence de Jésus. Cette femme, elle était là, elle avait été coincée par ces religieux, autant pervers qu'elle. Parce que franchement, si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, elle n'était pas seule. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas amené le gars? Vous avez vu comment on peut être macho, excusez-moi l'expression. C'est grave. Et cette femme, elle était là, toute tremblante. Elle allait mourir. Elle était devant le maître des cieux et de la terre. Elle avait besoin d'une parole. Et alors que Jésus a d'abord adressé une parole religieuse, il va lui adresser une parole à elle. « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Vous pouvez dire amen, ce n'est pas interdit. Vous ne croyez pas que ça a dû lui faire du bien? Elle avait besoin d'une parole. Lorsqu'on a descendu le paralytique par le toit, parce qu'il est impossible qu'il puisse passer par les personnes, et que cet homme paralysé a entendu une parole du Seigneur Jésus, vous vous rappelez la parole que Jésus lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, non, non. Ça, c'était bien, mais il y a mieux. Tes péchés sont pardonnés. C'est quoi le plus important? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Tes péchés sont pardonnés. Bien sûr que la guérison, c'est bien. Mais cet homme, il a dû être rafraîchi par cette parole. Il a dû être béni, c'est obligé. Et il est reparti chez lui parce qu'il avait entendu une parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nos cultes doivent être... doit avoir ce même charisme. Nous devons avoir cette même orientation. Je veux une parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la défaite, dans le découragement. Vous leur demandez, est-ce que tu as fait des progrès depuis 2 ans? Non, j'ai fait aucun progrès. Pire, j'ai même régressé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu une parole de Dieu. Et nous devrions absolument veiller à ce que lorsque nous préparons nos cultes, parce que j'espère que vous préparez aussi vos cultes. Vous avez vu dimanche, mardi à la réunion de prière, quand j'ai demandé, la salle était aussi remplie que ce matin, combien de chrétiens ont prié pour le pasteur aujourd'hui? Sur 250, il y a peut-être 30 personnes qui ont levé la main. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir. Hein. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que, est-ce que c'est un devoir de prier tous les jours pour les serviteurs de Dieu? Est-ce que vous avez prié pour moi ce matin? On fait lever la main? Non, on ne le fait pas parce que je n'ai pas envie d'avoir un coup. Et ça ne me fait pas rire à moi. Mais vous devriez avoir prié pour moi ce matin. Oui, je le pense sérieusement. Ce n'est pas des sentiments. La prophétie rappelait qu'on n'a pas intérêt à mettre les sentiments en premier. Ce n'est pas du tout sentimental. C'est spirituel. Donc, on a besoin d'entendre certaines choses, de réentendre certaines choses. Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses parce que cela vous est salutaire. Ailleurs, il dit, c'est Paul qui écrit à Pierre, il dit, mais je ne me lasse pas de vous écrire ou de vous dire parce que c'est important pour vous affermir dans la vérité. Il dira dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Nous revenons à Noé. Noé, vous avez la Bible ouverte dans Genèse? Regardez bien. Je voudrais que vous appreniez également, non seulement à écouter, mais également à méditer. Parce que des fois, on me pose des questions. C'est bien la preuve que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ou alors, ils la lisent vite fait pour la lire. Au verset 22 du chapitre 6, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est important, mes frères et sœurs. Vous voulez qu'une parole de Dieu, être touché par Dieu, il faut être sérieux avec une parole. Un mot même. Genèse chapitre 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Au verset 5 du chapitre 7, cela revient. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà, je ne sais pas ce que Dieu va vous demander, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le ferez? C'est important. Dieu ne va pas vous demander de construire un bateau. Est-ce que Dieu pourrait vous demander de construire un bateau? Je ne vois pas l'intérêt. À moins que vous deveniez pêcheur de poissons. Est-ce que Dieu va vous demander d'affronter un géant? Ça peut arriver, des géants, pas forcément des hommes de 3 mètres de haut, mais des situations difficiles. Dieu peut vous la demander, oui. Est-ce que Dieu pourrait vous demander, tiens donc, de sacrifier votre fils, comme il l'a demandé à Abraham? Tiens donc, est-ce que Dieu pourrait demander à un homme de sacrifier son fils? À partir de Moïse, est-ce que le crime était autorisé? Non. Donc Dieu ne pourrait plus demander à un homme de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça, c'était avant Moïse. Et c'était une pratique païenne. Dieu a demandé quelque chose qu'il pouvait demander. Mais à partir de la loi de Moïse, Dieu ne pouvait pas demander une chose pareille. Il y a des choses qu'il faut le savoir. Le suicide, tiens. En préparant cette prédication, j'ai une pensée pour le suicide. Le suicide, c'est terrible, le suicide. Oui ou non? C'est terrible. Nous entendons régulièrement que telle personne a mis fin à ses jours. Dans la parole de Dieu, hier je pensais à Chipotel. C'est pour ça que j'ai pensé au suicide, parce que le suicide c'est une tentation, le suicide. L'adultère, c'est d'abord une tentation. Le mensonge, c'est d'abord une tentation. Le vol, c'est d'abord une tentation. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait toutes sortes de tentations? Oui. Finé, l'homme de Dieu par excellence, a expliqué que tous les chrétiens pouvaient avoir la tentation du suicide. C'est une tentation. Mais quand vous voyez dans la Bible... ceux qui se sont suicidés, je pense à Saül, qui était un homme de Dieu. Quand je pense à Judas, qui était un pasteur formé par le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi, mais il n'a pas saisi l'occasion de prendre la victoire sur l'amour de l'argent, il s'est suicidé. Achipotel, on n'en parle jamais d'Achipotel. Mais hier, je lisais l'histoire d'Achipotel. Achipotel, quand il parlait, écoutez bien, Quand Achipotel parlait, c'est écrit ce que je vous dis, vous le comprenez bien. Quand Achipotel parlait, ses conseils étaient autant écoutés que si c'était Dieu lui-même qui parlait. Vous l'avez lu déjà ça? Vous l'avez lu? C'est écrit, vous comprenez bien que c'est vrai. Et cet homme qui avait une sensibilité aux choses de Dieu, c'est impensable. Impensable. D'ailleurs, David l'a fait rentrer dans son conseil secret pour avoir les conseils. Eh bien, cet homme a commencé à... Il était tellement, justement, capable qu'il en est venu à magouiller après l'histoire d'Absalom, etc. Et il s'est suicidé. Et quand vous voyez le suicide dans la parole de Dieu, je peux vous dire que ça n'a pas été inspiré par Dieu. Que ça vient du diable lui-même. Alors la tentation, je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. La tentation, ce n'est pas grave. Jésus a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Mais mes frères et sœurs, il faut veiller. Il faut veiller afin que la tentation ne se transforme pas en convoitise. Ça n'a rien à voir avec la prédication de ce matin, mais je l'avais vraiment sur mon cœur. Il faut faire attention. Et veiller et prier, Seigneur, garde-moi de la tentation. On est tous tentés. Tous, dans tous les domaines qui existent. Alors Noé vivait dans des conditions très difficiles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez lu comment le Saint-Esprit décrit la situation, le monde dans lequel vivait Noé. Et pourtant, c'est écrit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc ce que Noé vivait, je peux vous dire que nous sommes en train de le vivre par rapport à la mentalité du monde. Ce qu'il y a, c'est que lui, il était tout seul. C'est quand même une grâce d'avoir des frères et des sœurs. Ils ne sont peut-être pas tous spirituels, ça c'est sûr. Mais il y en a quand même dans le nombre qui le sont, non? Celui qui est à côté de vous, il est spirituel? Regardez-le bien. Il est spirituel? Hein? Non mais franchement, on n'est pas toujours bien encadré, oui ou non? Mais non, c'est clair. Ce qu'il a vécu, nous y sommes dedans. Il était dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps difficiles. Et pourtant, il est dit qu'il a marché avec Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs? On l'a lu tout à l'heure. La méchanceté est grande, la violence était grande. Et au verset 9 du chapitre 6, il est dit, Noé était un homme juste, intègre. Dans son temps, Noé marchait avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a béni, lui et sa famille. Alléluia! C'est pas ça que nous voulons? Est-ce que vous voulez que Dieu bénisse votre famille? Toute votre famille, tous vos enfants, c'est ce qui se passera. Il ne faut pas oublier qu'on peut reproduire les mêmes choses à condition que nous ayons la même attitude. Pas d'hypocrisie, mais une attitude de foi. Si Dieu a fait ça pour Noé dans des temps difficiles, laissez-moi vous dire qu'il reproduira la même chose dans les temps difficiles si nous avons le même comportement de foi. Dieu le fera. Les temps sont difficiles. Vous avez vu les circonstances, il y a des chrétiens qui ont peur. Ah, pourtant Jésus l'a dit, mais quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, ne vous effrayez pas. Jésus en plus a eu la délicatesse de tout nous dire. Il a dit, voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Alors vous aimeriez peut-être savoir comment fonctionne telle et telle molécule, comment fonctionne l'ADN. Je dis ça parce que hier, je suis tombé sur un truc chrétien à la science, où un chercheur, un savant, s'est converti, au bout de 54 ans d'athéisme, il a compris en étudiant les molécules de l'ADN qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment de l'intelligence derrière. Et il s'est converti. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas grave si on ne comprend pas telle ou telle chose dans la nature, dans la physique, dans la chimie, dans les végétaux et dans les animaux. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous marchiez avec Dieu. Quels sont les choix que vous êtes en train de faire en ce moment? Parce qu'on fait des choix. Ce matin, vous avez fait le choix de venir au culte. C'est un choix qui est baigné de superstition, baigné de religiosité, ou alors un choix vraiment baigné de foi. Comment on est venu dans l'église ce matin? Comment on est venu? Vous pourriez me dire, et toi? Ouais? Comment je suis venu, moi, à l'église? Est-ce que je suis venu parce qu'après tout, c'est mon travail? Est-ce qu'il fallait que je vienne, moi? Est-ce qu'il valait mieux? Non? Mais c'est vrai, vous pouvez me poser la question. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est en lui que sont pesées toutes les actions. Il n'y a que Dieu qui sait comment on est venu. Si on est venu parce qu'on a la peur de ne pas venir, il faut que j'y aille. Parce que si j'y vais pas, c'est pas bien. Si j'y vais pas, c'est que je ne suis pas en communion avec Dieu. Je ne sais rien, tout ce qu'un homme peut penser. Mais mes frères et mes sœurs, une chose est certaine. Vous devez savoir quels sont les choix que vous êtes en train de faire. Est-ce que nous voulons, oui ou non, marcher avec Dieu? Il marchait avec Dieu dans son temps. Et ça a duré longtemps. La construction de l'arche, ça a duré 100 ans. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais monsieur Gau, mais vous le tenez tout ça? Comment vous le savez que la construction de l'arche, ça a duré 100 ans? Moi, j'ai lu la Genèse et je n'ai pas vu ça. On me l'a dit. Mais c'est pour vous dire que les gens lisent bien. Regardez, je tiens à vous le dire, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que j'invente des trucs. Si je vous dis quelque chose, c'est que c'est écrit. Genèse, chapitre 5, verset 32. C'est juste avant la construction de l'arche. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Yafé. D'accord? Et Dieu lui demande de construire l'arche. Chapitre 7, verset 11. L'arche est terminée et il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'an 600 de la vie de Noé. Donc entre 500 et 600, eh bien vous ne le croirez pas, il y a 100 ans. Vous le croyez? Non mais je vous le dis parce qu'il y a des gens, monsieur Gou, mais vous dites des trucs, mais vous, l'avez, vous le tenez d'où? Eh bien je le tiens de la parole. Vous le croyez qu'entre 500 et 600, il y a 100 ans? Mais bon, ça vous fait rire. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est quand même bien de lire la parole de Dieu simplement. Le temps n'était pas bon. L'iniquité était à son comble, le jugement allait venir, la colère s'approchait, l'amour de tous était refroidi, l'apostasie régnait, les gens priaient. Est-ce que les gens priaient du temps de Noé? Tiens, est-ce que c'est écrit, tiens? Est-ce que les gens priaient, puisqu'il n'y a eu que Noé et sa famille de sauver? Tiens, est-ce que les gens priaient? Est-ce qu'ils priaient? Hein, vous êtes divisés. Eh bien, lisons-le. Regardez, Genèse, chapitre 4, verset 26. Mais c'est important, mes frères et sœurs, de méditer la parole de Dieu. Moi, ce matin, je suis resté une heure sur le cantique de Anne. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que je me suis fait. Une heure à méditer. Un cantique que je connais par cœur. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, il l'appelait du nom d'Enoch. C'est alors, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens... Ils priaient. Et que ça servait à rien. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Ça sert à rien. Ils prient pour leurs petits bobos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les petits bobos. Parce que quand même, on peut déposer tout au pied du Seigneur. C'est écrit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. On peut tout déposer. Mais il y a des gens qui ne pensent qu'à leurs bobos. La volonté de Dieu, ce n'est pas une main, ça sert à rien. Noé, il marchait avec Dieu. C'était difficile. Il était tout seul. Bien sûr qu'il y avait sa femme, ses enfants. Mais en fait, là, ils étaient enfants. Mes frères et sœurs, il était tout seul. C'est dur d'être seul chrétien dans une famille, dans une ville. Est-ce que ça peut arriver d'être seul? Vous qui m'écoutez sur Internet, je sais que plusieurs vous en êtes là. Vous êtes seul dans un village, seul dans une ville, même dans une église, au fait. Est-ce qu'on peut être sans chrétien? Et sur les 100 chrétiens, il peut y avoir que 3 ou 4 personnes de pieuses. Est-ce que ça peut arriver? Oui ou non? Eh oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver d'être dans une église où les chrétiens ne sont pas pieux, où le pasteur ne l'est pas? Est-ce que ça peut arriver ça aussi? Eh oui, ça arrive. Et il y a des gens, ça y est, il n'en faut pas plus pour que les gens soient complètement découragés. Alors je ne sais pas ce que vous imaginez. Dans ce contexte où il était, ce qu'il a dû entendre pendant les 100 ans où il a construit l'arche. Est-ce que vous vous imaginez, la terre était corrompue, ça veut dire que petit à petit, la corruption c'est que petit à petit, les choses se dégradent. La terre était corrompue, pleine de violence, les cœurs ne pensaient qu'au mal. Et j'imagine les gens, chaque fois qu'ils entendaient un coup de marteau, tiens, entends-le le fou, entends-le encore le pauvre fou. Il construit une arche, il est complètement cinglé. Il a dû tout entendre, la moquerie. Est-ce qu'on ne se moque pas de... On se moquait de nous, est-ce qu'on ne se moque pas des chrétiens aujourd'hui? Hein? On se moque des chrétiens. Tout le monde riait quand il parlait. La Bible dit que c'était un prédicateur de la justice. Donc il devait parler de cette affaire. Il devait dire, mais vous savez, Dieu m'a demandé de construire une arche. Et quand cette arche sera terminée, il va faire venir tous les animaux. Et les gens riaient. Mais les gens riaient. Et ça devait y aller sur la dépêche et dans les journaux de la région. Ça devait y aller, je peux vous le dire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu pareil. On rit. Les gens nous voient sortir de l'église. Ils rient sous cap. Oui ou non? Ben oui, ils rient. On sort d'une boîte, perverse, les gens, ça les choque pas. Vous sortez d'une église, les gens, ça les fait rire. Ouais. Il n'a pas dit, ah, s'il y avait quand même davantage de chrétiens, je marcherais avec Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Je tiens à vous dire que les circonstances s'aggraveront. Vous le croyez, ça? Ça sera pareil, c'est une prophétie. Vous savez, dans la Bible, il y a des paroles de consolation. Vous aimeriez que je fasse que des prédications sur la consolation? Vous aimeriez que des prédications sur la consolation? Est-ce que je peux pendant 6 mois, faire que des prédications sur la consolation? Oui, je peux. Je peux. Des prédications, que de l'enseignement, de la théologie, etc. Il y a de tout dans la parole de Dieu. Il y a des avertissements. Mais il y a des prophéties. Et ce qu'on a lu dans Matthieu 24, c'est une prophétie. C'est ce qui arrive. Alors des circonstances, il y en a plein. Il y en a plein. Mais il faut qu'une fois, la foi, elle soit vivante. Je ne sais pas si votre mari est chrétien, si votre famille est chrétienne. Mais il y a des chrétiennes, dès que quelqu'un ne va pas bien. Si mon mari était chrétien, je serais un chrétien solide. Je l'ai entendu, ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font penser? Si mes enfants étaient tous chrétiens, qu'est-ce que je serais solide pour le Seigneur? Je marcherais avec Dieu. Si j'étais dans une église pieuse, qu'est-ce que je serais solide pour le Seigneur? On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Joseph, vous connaissez Joseph le patriarche? Lui aussi, il n'était pas beaucoup entouré. Il n'a pas dit, si mes frères étaient sympathiques. Qu'est-ce que je serais un bon chrétien? Comment ils étaient, ses frères, avec lui? Méchants, cruels, mauvais. Vous avez vu, ils ont essayé de le tuer. Vous vous rendez compte s'il avait dit, mais quand mes frères seront sympas, mais moi je marcherai avec Dieu. Il y a des chrétiens, ils en sont là, ils vivent dans une espèce de calculation, de calcul. Ils vivent là, une espèce de réflexion qui ne sert à rien. Si j'étais marié, je serais un bon chrétien. Si j'étais seul. Ça vous fait rire. Mais vous le croyez que j'ai déjà entendu des chrétiens dire, si j'étais tout seul, je marcherais avec Dieu. Ma femme, c'est un boulet. Mais ne riez pas, parce que moi, ça ne me fait pas rire. Mais elle est chrétienne, votre femme? Oui, elle est chrétienne. Moi, ça ne me fait pas rire. Alors, la façon dont je vous le dis, ça peut vous faire sourire, c'est pas grave si vous avez ri. Mais je peux vous dire que ça arrive. Si j'étais dans une bonne église, si j'avais un bon pasteur. Je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Alors est-ce que parce qu'on n'a pas un bon pasteur, il faut mal marcher avec Dieu? Est-ce que ça peut arriver d'avoir un mauvais pasteur? Soyons honnêtes. Mais oui, il y en aura de plus en plus. Et il y en a des hommes qui ne cherchent pas Dieu, dont ils n'apportent rien. Ça ne sert à rien la prédication. Mais ce n'est pas parce que vous avez un mauvais pasteur. Oui, un mauvais pasteur. Je sais que je vais avoir des mails après cette parole, ce n'est pas grave. Mais si vous avez un mauvais pasteur, vous pouvez quand même marcher avec Dieu. Comme il faut. Parce que vous avez tous la même Bible. Job n'a pas dit, Job, vous connaissez ce que Job a traversé? Vous imaginez si au chapitre 2, il avait dit, si ma femme me soutenait. Vous savez ce qu'elle lui a dit, sa femme? Maudit Dieu, et meurt. Mais c'est sûr qu'elle n'en pouvait plus, sa femme. Elle avait tout perdu, et en plus, son mari et la santé. Il n'a pas dit, quand ma femme me soutiendra, mais ça, je marcherai avec Dieu. Daniel qui a été débarqué à Babylone. On est con, un jeune homme. Il a vu toute sa famille décimée, on l'a amené à Babylone. Il a dit, si j'étais resté à Jérusalem, je serais un bon chrétien. Non, vous avez vu ce qu'a vécu Daniel? Ce matin, je lisais, là, pour mon culte personnel, l'histoire de Anne. Anne, vous savez? Samuel, quand il est entré dans le ministère. Vous connaissez l'histoire de Samuel? En plus, il n'était pas bien vieux. Quand il a vu Élie, le sacrificateur, ses fils, ses hommes, ils étaient comment, ces pasteurs? La Bible dit qu'ils étaient comment? Pervers. il est entré dans le ministère et il a vu deux pasteurs complètement pervers. Un père qui disait rien, que Dieu a repris sévèrement. Et Samuel a dit, ah, oh, mais si j'étais mieux entouré, je marcherais avec Dieu. Non, c'est des hommes. Et on pourrait multiplier la liste, bien sûr que je n'ai pas le temps de le faire. Mes frères et sœurs, les derniers jours seront des temps difficiles. Vous le savez. Mais quand même, Jésus a pris le soin de nous dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Est-ce que vraiment vous le croyez? Vous êtes sûr, vous n'allez pas dire non. Mais est-ce que vraiment vous croyez que Jésus... Je recommence. Est-ce que tu crois que Jésus peut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin? Oui, les temps sont difficiles. Et les temps seront de plus en plus difficiles. Et l'apostasie sera de plus en plus marquée, et les gens seront de plus en plus méchants, et il y aura de plus en plus de violence. Alors c'est vrai que moi je dis amen aux prières, Seigneur, permets que si, permets qu'il y ait moins de violence, bon. Mais mes frères et sœurs, je suis désolé. Je suis désolé. La terre sera remplie de violence. La colère de Dieu. Pourquoi je... Alors quelqu'un, je sais, parce qu'on va me le dire, mais monsieur Gau, comment vous en êtes certain? Mais regardez, chaque fois que quelque chose de grave arrive, il faut bien comprendre ces choses. Mes frères et sœurs, il faut quand même un peu de bon sens. Chaque fois que quelque chose de grave arrive, on l'a vu en France, le 13 novembre, chaque fois que quelque chose de grave arrive, quelle est la réaction des gens? Est-ce que les gens surmontent le bien par le mal, ou est-ce que les gens font des choix encore plus mauvais? Vous le voyez comme moi. Les gens font des choix encore plus mauvais. C'est la preuve que les gens ont pris position. Mais les gens du monde prennent position, mais dans l'Église aussi. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille encore. Et qu'on le veuille ou non, tout le monde est en train de se positionner. Et quand la porte sera fermée, vous inquiétez pas, chacun aura pris position. Et cette exhortation, c'est un encouragement à nous dire que quelles que soient les circonstances, même si je suis tout seul, quand Noé allait à la réunion de prière, il était tout seul. Vous vous imaginez, vous arrivez un mardi soir, vous êtes tout seul. Et personne s'ajoute avec vous à la réunion de prière. Qu'est-ce que vous faites, au fait? Vous entrez à l'église, il n'y a pas le chauffage. Il n'y a pas Monsieur Gou, il n'y a pas Jonathan, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, au fait? Parce que Dieu peut nous éprouver. Il y a plein de choses sur lesquelles Dieu peut nous éprouver. Eh bien, Noé, il a décidé de marcher avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi, c'est exactement ce que je vais faire, c'est exactement ce que je fais, c'est ce que je ferai, quelles que soient les circonstances. Ne dites pas, ah, mais moi, c'est pas évident, vous savez, oui, si le Seigneur pouvait m'aider. Si le Seigneur pouvait m'aider? Ah, il a aidé Josué, il a dit à Josué, je serai ton aide. Hein? Est-ce qu'il le dit à nous, qu'il sera notre aide? Mais si, il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Regardez dans Hébreux chapitre 13. Mais mes frères et sœurs, je vous le dis, méditez ces passages. Vous les écoutez, on est là dimanche matin. Mais ce passage, combien de fois il vous vient à cœur lorsque vous êtes dans votre culte personnel, lorsque vous êtes en train de prier, d'intercéder? Est-ce que le Saint-Esprit peut vous rappeler des textes quand vous priez? Répondez-moi, ou répondez-vous. Est-ce que quand vous priez, des versets bibliques vous viennent à l'esprit? Est-ce que ça vous arrive? Une fois par an ou tout régulièrement? J'espère que quand vous priez, il y a plein de versets bibliques qui vous viennent à l'esprit. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Regardez bien la suite. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Si nous voulons ressembler à Noé, il faut que nous soyons sérieux avec ses promesses. Car Dieu lui-même a dit. Ça pourrait ne pas être écrit, ça. Vous êtes d'accord? Ça pourrait ne pas être écrit. C'était pas utile, en fin de compte. Mais Dieu a voulu que ça soit écrit. C'est Dieu qui l'a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? La suite, vous pouvez la lire aussi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Oui, c'est bien. Est-ce que vous acceptez son aide? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de remettre en question son aide? Moi, je ne comprends pas, Dieu m'aide pas. C'est peut-être l'état d'esprit qu'il faudrait commencer à changer. Plutôt que de vous autoriser à parler de cette façon contre Dieu. Parce qu'en fin de compte, imaginez, si moi je vous dis, ouais, je ne comprends pas, Dieu m'aide pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais Dieu menteur. Je peux vous dire que ça doit lui plaire. Et ça doit certainement réjouir le Saint-Esprit dans mon esprit. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le Seigneur est mon aide. Alors Seigneur, tu vas m'aider. Est-ce que Dieu a aidé Noé à construire cette arche? Eh oui, pourtant tout le monde se moquait. Tout le monde était rempli de... La terre était remplie de violence. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, on y est. On y est, croyez-moi, Dieu nous garde parce que le Saint-Esprit protège comme le sel, empêche la corruption, le Saint-Esprit empêche. Mais est-ce que j'ai son aide? Est-ce que je le crois vraiment? Dieu, il veut vraiment notre cœur, il ne veut pas notre corps juste le dimanche matin à l'église. Il veut vraiment notre cœur. Est-ce que Jésus est votre berger? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, Jésus est mon berger. Jésus a dit, mes brebis, elles entendent ma voix. Mes brebis, elles me connaissent. Mes brebis, elles me suivent. C'est écrit ou c'est pas écrit? Les brebis, elles connaissent ma voix. Et vous savez, quand dans la prière, un verset vous vient, si c'est une parole que Dieu vous donne pour vous fortifier et vous encourager. Oui, David pouvait dire, pourtant il a eu des épreuves toute sa vie, mais il pouvait dire, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Il a dit le bonheur et la grâce. Mais même, allez, restons-en qu'à la grâce, parce que c'est quand même déjà pas mal. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Vous le croyez ça? Même, vous croyez que la grâce de Dieu a accompagné Noé tous les jours de sa vie? Même quand tout allait mal. La Bible dit que... où il était Dieu lors du déluge, au fait? Vous êtes sûr? Et c'est, combien? Hein, c'est bien. C'est écrit dans le psaume 29 que Dieu était sur son trône lors du déluge. Dieu irait, il n'était pas impressionné, ça devait être terrible. Vous vous rendez compte, le déluge, ça devait être quelque chose de terrible. Dieu était sur son trône. Rien n'impressionne Dieu. Noé, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que si nous n'y mettons pas la foi de Noé, nous risquons de nous faire emporter et être à l'extérieur de l'arche quand Jésus va revenir. Noé avait une crainte respectueuse. C'est écrit? Où c'est écrit que Noé avait une crainte respectueuse? On va le lire mes frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 11. Mes frères et sœurs, vous savez... Moi, je me fais beaucoup de soucis pour les chrétiens qui ne seront pas prêts. Parce qu'hélas, il y en aura beaucoup de chrétiens qui ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts pour la simple et unique raison qu'ils n'auront pas été sérieux avec des exhortations comme celles que vous êtes en train d'entendre. Voilà. Pourquoi ils ne seront pas prêts? Parce qu'ils n'auront pas été sérieux avec la parole. Hébreux chapitre 11, versets 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas la croyance, hein. Pas des prières ou des... Il n'est pas dit sans aller à l'église. Sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est quand même simple, non? Est-ce que ce n'est pas simple? Il n'est pas dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu donne la moitié de sa fortune. Non. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça ne peut pas être plus simple. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses... Ah, vous allez me dire, mais il a été averti, lui. Et nous, on n'a pas été averti? On n'a pas été... C'est pas écrit? L'apôtre Pierre, il dit pas, mais vous avez été averti? Mais non, mais si nous, on avait le culot de dire qu'on n'a pas été averti, on est vraiment loin de Dieu. On n'a pas été averti? Dites-moi. Noé, il avait ça? Il avait ce livre, Noé? On n'a pas été avertis, nous? Et comment? Et comment? En plus, on a la Bible dans notre langue. Vous savez, on est habitué. Mais il y a plein d'endroits sur la terre, ils n'ont pas leur Bible dans leur langue. Vous n'êtes pas heureux d'avoir la Bible en français? Ce n'est pas une faveur? Noé a été averti. Moi, je peux vous dire qu'on l'est autant. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ah ben, c'est sûr que l'enlèvement, on ne le voit pas encore. Mais croyez-moi, on est très proche. Et saisi, c'est écrit, Dieu a voulu qu'on le sache, pour qu'on reproduise. Et saisi d'une crainte respectueuse. Il construisit une arche. Alors regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? Il y a deux choses. Pour sauver sa famille. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, il sauve la famille. Et de l'autre, il condamne le monde. C'est la prédication. Chaque prédication, c'est exactement le même principe que la construction de l'arche. Chaque coup de marteau, parce qu'ils attendaient, ils se moquaient. Chaque coup de marteau, qu'est-ce que ça rappelait au fait? Chaque coup de marteau, qu'est-ce que ça rappelait? Ils entendaient, parce qu'il y a dû avoir quelques coups de marteau. Non? Ça rappelait le jugement, et en même temps, ça rappelait quoi? La grâce de Dieu. Il sauvait, il préparait un moyen de sauver les hommes. Oui ou non? Chaque coup de marteau, chaque coup que les gens entendaient, ah, le salut, la grâce, et en même temps, le jugement. Chaque prédication, c'est comme un coup de marteau. Tac, ce matin, je donne un coup de marteau. C'est exactement le même principe. Dieu bâtit son église. Et comment on réagit? Comment on réagit? Alors vous allez me dire, oui, mais l'arche, c'était l'arche. Mais nous, c'est quoi? Mais nous, c'est la croix. Alléluia. Comment vous allez prendre le pain et le vin tout à l'heure? Dieu nous avertit. Nous l'avons, le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Nous avons chanté de beaux cantiques sur ce que Jésus a fait, comment Dieu est venu sur la terre. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que vous vous y habituez? Ou est-ce que ça vous fait plus rien d'entendre que Dieu est venu en Jésus-Christ sur la terre? Ça vous fait plus rien? Ça fait 30 ans que j'entends, mais monsieur, je le sais, que Jésus est venu, je le sais. Ah oui? Eh bien, moi, ça m'émeut toujours. Que Dieu soit venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ, moi, ça me bouleverse toujours. Oui ou non? Et la croix, c'est sérieux. Notre salut, c'est Jésus-Christ. Le salut de Noé, c'était l'arche. On se moquait de Noé et de l'arche. On se moque de Jésus-Christ. On se moque de la croix. Mais monsieur Gaud, dans un monde hyper technique, dans un monde hyper sophistiqué, avec toute la technologie, monsieur Gaud, mais la croix, c'est des blagues. Écoutez-moi, si vous voulez aller au ciel, il vous faut rester au pied de la croix. Il vous faut rester avec Jésus-Christ. Il regardait l'arche avec moquerie. Les gens d'aujourd'hui regardent l'église de la même manière. Ils rient. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas si on se moque de vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je me suis moqué du Seigneur avant. Et je pense que je ne suis pas le seul. Non? Il n'y en a pas plusieurs là qui pourraient lever la main? Allez, allez, allez. Vous n'êtes pas moqué du Seigneur. Vous savez, il y a des versets. Quand on est saisi d'une crainte respectueuse, parce que c'est ça en fin de compte le message de ce matin. Cet homme, Dieu a pu l'utiliser parce qu'il a été saisi. Quand Dieu a dit quelque chose, c'était sérieux. C'est sérieux la prédication de la croix pour vous? C'est sérieux la prédication le dimanche ou le mardi ou le jeudi? C'est sérieux. Alors ça se développe, cette crainte respectueuse. Vous savez, moi, un verset qui m'a bouleversé, je vous l'ai déjà dit, parce que je me suis moqué de Dieu et de Jésus avant ma conversion, mais vraiment moqué d'une manière, vous savez, stupide et ridicule. Quand on racontait une vanne sur le Seigneur, vous savez, ces histoires bêtes là. Et je riais de bon cœur. Et quand j'ai lu après ma conversion que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, je me suis dit, mon Dieu, quelle grâce. Je me moquais de toi et toi, tu me protégeais. Oui ou non? On n'est pas plusieurs dans ce cas? Et ça nous bouleverse. Moi, c'est ce verset qui m'a bouleversé. Vous, ça va être un autre. Mais mes frères et sœurs, la crainte respectueuse, ça ne peut que nous amener à un moment ou à un être, à un autre, à lire un verset. C'est peut-être la 20e fois, la 40e fois, la 60e fois. Mais ce verset, Dieu va l'utiliser. Pourquoi? Pour me bouleverser. Parce qu'on a besoin d'être bouleversé. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Et je vous le répète, il était tout seul. Tout seul, et tout le monde se moquait de lui. Tout le monde raillait. Il a dû entendre, peut-être que sa femme rentrait des fois des courses. Elle disait, tu sais pas ce qu'ils ont dit sur toi, je les ai entendus quand j'achetais le café, j'entendais. Ils se moquent de toi toute la journée. Ils disent que tu es complètement fou. Est-ce que ça a dû se passer, ça? Est-ce que ça a dû se passer? Mais bien sûr, 100 ans, ça en fait des journées à pouvoir se moquer de quelqu'un. Il a décidé de marcher avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans le même cas de figure, qui dit, mais moi aussi, je veux être saisi d'une crainte respectueuse. Si tu dis, Seigneur, cette chose dans ta parole, c'est sérieux. C'est sérieux. Demain, on vous dirait, tiens, monsieur, le Premier ministre, vous envoyez une lettre, vous allez la recevoir demain. Je suis sûr que beaucoup, le Premier ministre, il m'a écrit. Il m'a écrit, vous attendriez là, dans la, au coin de la rue, le facteur Lucas avec son képi et sa casquette. Hein, vous l'attendriez. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que Dieu a des choses à nous dire? Noé, il était. C'est pour ça que Dieu lui a parlé. Il avait la crainte. Je vous disais tout à l'heure, franchement, parce que je me suis levé de bonne heure, parce que j'avais préparé mon culte, je me suis dit, tiens, t'as une heure devant toi, et j'ai médité le cantique de Anne. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ce matin je me suis fait du bien. Je n'ai pas attendu de venir à l'église pour me faire du bien. Et je pense, mes frères et sœurs, que ça ne dépend que de nous. Il a choisi, c'est un choix, il a décidé. Ce n'est pas les autres qui l'ont encouragé, je vous le dis. Ce n'est pas les copains qui lui ont dit, écoute Noé, marche avec Dieu. Il a décidé, puisque tout le monde avait fait l'inverse. C'est pour ça, mes frères et sœurs, merci Seigneur si vous avez une épouse chrétienne. Est-ce que c'est une grâce d'avoir une épouse chrétienne? Ouais, moi je trouve que c'est bien. D'avoir des enfants chrétiens, est-ce que c'est bien? Mais oui, d'avoir plein de frères et sœurs chrétiens, est-ce que c'est une grâce? Mais vous qui m'écoutez, vous qui êtes seul peut-être dans une église, seul dans un village, ne vous découragez pas. Dieu sera votre aide, Dieu vous fortifiera, Dieu vous parlera. Il faut cette crainte, ce respect de Dieu. Mes frères et sœurs, si on n'a pas le respect de Dieu, si on n'a pas le respect des choses de Dieu, moi vous savez, quand je vais dans des églises, des fois je suis malheureux. Comment les gens parlent de la parole, comment les gens même chantent avec légèreté, ils écoutent la parole. Il y a un pasteur qui me disait dernièrement, écoutez-moi, pendant qu'il prêche, les gens de l'église, je ne sais pas si tu étais, c'était une pastorale, tu étais? Pendant qu'il prêche, les gens s'envoient des textos. Tu étais, hein? Les gens, pendant qu'ils prêchent, ils jouent sur des jeux. Ils blaguent, ils parlent entre eux, ils s'envoient des textos. Moi, que j'envoie, même, franchement. Mais par respect. Par respect pour celui qui est à côté. Mes frères et sœurs, je peux vous dire que dans ces églises-là, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de respect. Nous avons la grâce de terminer bientôt la course. Ne voulons-nous pas la terminer dans ce même état d'esprit? Moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait rire les pasteurs. Moi, je peux vous dire que ça ne m'a pas fait rire. Vous vous rendez compte? Il joue pendant la prédication. Et le pasteur, il a l'air d'accepter ça. Non, mais franchement. Mes frères et sœurs, les temps sont difficiles. Ils le seront de plus en plus. Ce sont des menteurs et des faux prophètes ceux qui vous diront l'inverse. Les temps seront de plus en plus difficiles, mais Jésus sera tous les jours avec ses enfants qui sont remplis de crainte respectueuse. Quand Dieu parle, c'est sérieux. Quand Dieu parle, je le prends avec sérieux, je m'y attache. Bien sûr que nous sommes dans un monde, la parole est transformée, on transforme les églises, il y a plein de colloques et de comités qui sont mis en place, en plus par des pasteurs, pour essayer de moderniser l'église. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des gens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les gens? C'est pas une question d'attirer les gens ou de les garder, c'est une question d'honorer la parole. On prêche la croix de Jésus-Christ. Notre refuge à nous, c'est la croix. Notre refuge, c'est le sang du Seigneur. Gloire à Dieu. Et on va prendre le pain et le vin, il faut le faire sérieusement. Est-ce que vous avez besoin de lire la parole? Je vais terminer avec ça. Est-ce que vous avez besoin de lire la parole? Est-ce que vous aimez lire la parole? Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Quand j'ai préparé ce culte, ça a été très fort sur mon cœur. Qu'il y avait au milieu de nous, alors je sais que comme ces prédications sont écoutées par des milliers de gens, je sais très bien que ça peut être une pensée pour ces gens qui m'écoutent sur Internet, je le sais. Mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas au milieu de nous des gens qui sont légers avec la lecture de la parole? Alors c'est vrai que ça fait très légaliste, lisez la parole tous les jours. Alors est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est biblique? Donne-nous chaque jour. Alors bien sûr que ce n'est pas parce qu'on va rater une fois que j'ai pas lu la Bible. Ce mois-ci, j'ai pas lu ma Bible un jour, une fois. Alors, n'exagérons pas non plus. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous la lisez de moins en moins, vous altérez votre communion avec le Seigneur. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous vous éloignez un petit peu plus du Seigneur tout le temps. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Comme on l'a lu dans Hébreux, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues afin de ne pas nous éloigner d'elles. On l'a lu tout à l'heure. Nous devons mettre notre cœur dans la parole. Des fois, vous croyez que moi j'ai toujours envie, quoique franchement je ne vais pas mentir non plus, j'aime lire. Mais c'est un combat aussi parfois de préparer une prédication. Vous croyez que c'est toujours facile de préparer un sermon? Vous qui avez prêché, est-ce que c'est facile de préparer un sermon? Monsieur Olé, est-ce que c'est toujours facile? Hein? C'est facile? C'est pas toujours évident. Mais entre... je sais qu'à un moment donné, il y a un moment où vous êtes nourri. Vous êtes rafraîchis, mes frères et sœurs. Apprenez à serrer la parole de Dieu dans votre cœur. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il le disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mes frères et sœurs, mettons notre cœur dans la parole. Prenez tous les jours un peu de temps. Vous n'avez qu'un quart d'heure. Eh bien, bénissez ce quart d'heure. Profitez de ce quart d'heure. Vous allez me dire, mais vous, monsieur Gau, vous avez des heures. Oui, c'est vrai. Et je passe des heures à lire et des heures à prier parce que c'est ce que Dieu me demande. Est-ce que c'est écrit que ceux qui sont appelés au ministère doivent s'adonner au ministère de la parole et au ministère de la prière? Est-ce que c'est écrit? Donc, je dois le faire. Moi, c'est ce que Dieu me demande. Vous, vous n'êtes pas appelé peut-être à ce ministère, mais ces 20 minutes que vous avez, bichonnez-les. Eh bien, je vais lire 10 minutes. Je vais commencer. Je vais le faire. Je vais lire 10 minutes et je vais prier 10 minutes. Commencez comme ça. Mais remettez-vous à aimer la parole de Dieu. Jésus l'a dit, si tu gardes ma parole, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir. Mes frères et sœurs, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous vous éloignerez de Dieu. Et quand Jésus reviendra, vous serez en dehors de l'arche. Et ce n'est pas ici que vous direz qu'on ne vous l'a pas dit. Je sais qu'il y a des pasteurs qui vont être jugés sévèrement. Parce qu'ils n'auront pas dit que la porte allait se fermer. Et les gens, ils croient que tout va bien, que Dieu est amour, que Dieu passe sur tout. Ce n'est pas vrai. Dieu est saint, Dieu est plein d'amour, et Dieu est en même temps un feu dévorant, on l'a lu. Il y avait une arche pour sauver la famille, et il y avait aussi la condamnation qui venait sur le monde. C'est comme ça, ne jouons pas la comédie, c'est très simple à comprendre. Il y a la grâce de Dieu, et il y a la colère de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors mettons notre cœur à l'ouvrage, recommençons. J'ai été averti, Seigneur, moi je veux une parole. Demain je vais lire avant d'aller au travail. Je vais lire peut-être deux ou trois psaumes. Seigneur, arrête-moi sur un verset. Est-ce que Dieu peut le faire, ça? Ben oui, il le fera. Mais il le fera. Il le fera. S'il ne peut pas le faire, c'est que vous n'y avez pas donné le temps de le faire. C'est comme les gens qui me disent, mais j'ai cherché Dieu, ça ne sert à rien. Je n'ai pas trouvé. J'imagine, moi, le gars, quand il va se présenter devant Dieu. Seigneur, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Est-ce que ça va? Est-ce que vous y croyez à ça? Ben non, c'est impossible. Quelqu'un qui cherche, il trouve. On va se recueillir, mes frères et sœurs. Je voudrais qu'on se recueille et que de la même manière, moi, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Peut-être c'était un mois avant, peut-être c'était à 500 ans que Dieu lui a donné. Donc c'était à 200 ans, 300 ans. Pour nous, ça fait sourire un peu, ces âges-là. Je ne sais pas, peut-être que c'est à 15 ans que Noé a décidé de marcher avec Dieu. Je ne sais rien. Mais croyez-moi, il était comme les autres. Il aurait pu se corrompre petit à petit, parce que la corruption, je l'ai dit tout à l'heure, c'est petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain, tiens, aujourd'hui je suis blanc et demain je suis noir. Non, c'est petit à petit que je choisis de ne pas entretenir cette communion, c'est ça la corruption. C'est comme ça qu'elle vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi je vais faire pareil? Mais Dieu va vous aider, c'est obligé mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de caractère, de personnalité, d'âge, de compétence, d'intelligence, de ceci ou de cela. C'est un choix. Qui ce matin veut choisir de marcher avec Dieu, quelles que soient les circonstances? quelle que soit la famille, quel que soit le foyer, quels que soient les gens avec qui vous travaillez, je veux marcher avec Dieu dans une crainte respectueuse. Et si tu me demandes quelque chose, eh bien je le ferai. Voilà. Mes frères et sœurs, c'est des moments vraiment sérieux. C'est des moments sérieux, très sérieux. C'est des moments où, quand Dieu approuve, vous savez, Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore, je mépriserai celui qui me méprise. Et s'il y a quelqu'un qui dit, mais moi je veux honorer la parole, c'est sérieux, tout est sérieux. Ne dites pas, pourquoi Dieu ne m'a pas expliqué quand il a arrêté le soleil sur Gabaon, est-ce que c'est vrai, mais que ce n'est pas possible. Écoutez-moi, Dieu il a créé le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Écoutez, si Dieu veut l'arrêter, il peut l'arrêter. C'est rien du tout pour lui. Ne calculez pas, comment c'est pas possible. Écoutez-moi, tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Ne commencez pas à vous mettre contre Dieu, c'est la preuve que vous n'avez aucun respect. C'est un choix, le respect. Moi, quand je me suis converti, j'ai décidé de respecter mes parents. Ça a pris 30 secondes. Parce que j'ai lu les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, il ne m'a pas fallu plus. Il ne faut pas plus de quelques secondes pour obtenir le pardon des péchés. Il ne faut pas plus de quelques secondes pour dire, Seigneur, je prends la décision et tu vas. Mais bien sûr, il faut que Dieu vous aide. Et il vous aidera si vous avez le respect de la parole. Je vais demander aux chrétiens, ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, de se lever avec beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance.